Kodesh, Shabbos Kodesh, Yudelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh, everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh, a priceless gift, a spiritual lift.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être présents pour ce nouveau rendez-vous du commentaire de la paracha. Vous notez notre nouveau rendez-vous, c'est tous les vendredis à partir de 14h. Aujourd'hui, la radio est triste puisque nous avons appris hier le décès de Michel Nemaran, Zichrono Livracha, l'ancien délégué de l'AIGF et du FSU à Strasbourg, ancien membre du bureau de la synagogue de l'Esplanade et surtout ancien président de la radio. Michel Maron nous a quitté hier. Malheureusement, on pense beaucoup, évidemment, à toute sa famille et particulièrement à sa femme, Simi Maron, à Eric Maron, qu'on connaît beaucoup, à Audrey Edel et à Franck Maron. On pense beaucoup à eux et on est beaucoup marqué par cette disparition, voilà, Monsieur Maron qui a été enterré tout à l'heure à midi au cimetière de Cronenbourg, et donc on voulait vous l'annoncer. Cette semaine, c'est le rabbin Yaakov Warshuchat qui va évidemment nous présenter cette émission. Bonjour Monsieur Rabbin Warshuchat.
Bonjour Monsieur Choukoun.
Vous savez que notre émission est diffusée désormais à 14h au lieu de 13h30.
Oui, oui, oui.
Vous l'avez noté?
Je l'ai noté.
Très bien. Cette semaine, nous dirons la paracha de Yitro, paracha des 10 commandements, l'allumage des bougies à 17h34 et demain, la fin du Shabbat à 18h38. Les horaires sont valables pour Strasbourg et sa région. Comme chaque semaine, on souhaite évidemment un revoir chez les mâts, un revoir particulier cette semaine à M. Charlie Bitton. Il y a d'ailleurs des télims qui tournent sur les réseaux sociaux. On voulait donc souhaiter particulièrement un refouach chez les mains.
Refouach chez les mains.
Évidemment, un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Monsieur le rabbin, vous savez de quoi je parle, puisque vous êtes responsable social au sein du consistoire. Et nous avons évidemment une pensée pour tous nos frères israéliens, avec, on le sait, beaucoup de discussions, beaucoup de nouveautés. On espère que tout se passera bien pour eux, là aussi, on prie. Enfin, je dédie cette émission à l'élévation de l'âme de Robert Steinberg. Toute notre sympathie pour M. Steinberg, que j'ai bien connu, son épouse Rachel et ses enfants Isaac, Nili et Amikam. Et enfin, je dédie cette émission à la mémoire de M. Shimon Bet Shabba, Shlomo Selam, Zichrono Livracha, c'est mon grand-père. Voilà, on a tout dit, ou presque. Juste avant, un petit message aussi, mais de joie, puisqu'on souhaite un grand Mazal Tov à Ethan Moshe, le fils de Magali, et Sharon Aliwa, qui fête sa bar mitzvah demain à Rambam. Voilà.
Mazal Tov.
On a tout dit, ou presque. Monsieur le grand rabbin, monsieur le rabbin, tout voilà. Simple. Hein, c'est l'habitude. Je disais tout à l'heure, on va dire les 10 commandements. Est-ce que c'est une obligation de venir à la synagogue pour assister à la lecture?
Alors effectivement, ce Shabbat, nous allons lire la Seret Adibérot, les 10 commandements. Alors bon, comme chaque Shabbat, bien évidemment, il y a cette obligation hebdomadaire pour les hommes d'aller écouter la Torah, la synagogue. Mais il n'y a pas réellement d'obligation halakhique, formelle, d'aller écouter les 10 commandements à la synagogue pour tous les juifs. Alors bien évidemment, il y a cette tradition particulière pendant la fête de Shavuot,
de venir.
Ou lors de cette fête, on a vraiment l'habitude, parce que cette fête, on commémore la réception de la Torah par les Bnei Israël au Mont Sinaï. Et donc, il est courant que, bon, on a l'habitude de se rassembler dans les synagogues, etc. Bon, mais demain, véritablement, il n'y a pas d'obligation halakhique exigée. En revanche, c'est bien d'y aller. Il faut y aller même. Je dirais même que ça serait très bien et c'est conseillé d'y aller.
Avec les femmes, les enfants et tout ça.
C'est conseillé d'y aller tout simplement parce que c'est tout de même, rappelons-nous, un rappel et c'est une opportunité aussi spirituelle pour nous rappeler un peu de ces fondements de base de notre Torah, de notre tradition et de notre judaïsme.
Alors la question que tout le monde se pose, chaque année c'est la même chose, est-ce qu'on se lève lors de la lecture de la Torah, enfin des 10 commandements?
C'est une très bonne question.
Toujours
des discussions à ce sujet. Alors, il y a sur ce sujet plusieurs réponses. Il y a aussi des coutumes, des habitudes. Alors, les Ashkenazim, eux se lèvent. J'en ai parlé encore avec le grand rabbin ce matin. Oui, de toute façon, les Ashkenazim se lèvent pendant la lecture de la Torah, mais spécifiquement aussi pendant les 10 commandements. Alors, au niveau des Sfaradim, il y a des discussions. Par exemple, selon le grand rabbin Rav Ovadia Yosef, qui lui écrit donc dans son livre, qu'il dit qu'on ne se lève pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne fait pas de différence entre deux parties de la Torah, parce que tous les deux, c'est la Bible, c'est la Torah sainte, et donc on ne va pas marquer de différence entre ces deux parties. Donc d'après lui, il ne faudrait pas se lever. Malgré tout, par exemple, selon la coutume marocaine, qui ressemble très souvent sur certains points aux coutumes ashkénazes, alors la coutume marocaine est de se lever pendant les 10 commandements, et même selon cette coutume-là, il y a aussi d'autres discussions. Malgré tout, on a pris quand même une habitude, c'est de faire monter une personne importante pour la montée des 10 commandements, le rabbin, le rav, le dayan, ou une personnalité importante, et donc automatiquement toute la communauté se lèvera pour cette montée.
Alors on va parler maintenant du résumé de la paracha de la semaine, résumé plutôt court, parce qu'il n'y a que deux, trois grands sujets.
Voilà, on peut véritablement résumer cette paracha en deux grandes parties, ou bien en trois parties, trois sous-parties. Parce que dans cette paracha, on raconte quand même plusieurs événements très importants. Parce que premièrement, dès le début de la paracha, on a la visite de Yitro. Alors, vous savez que Yitro était le beau-père de Moshe. Et Yitro donc, arrive dans le désert, et vient à la rencontre de Moshe, et le Passouk dit même que Moshe sort à la rencontre de son beau-père par respect, et que lorsque Moshe est sorti, il y a aussi Aaron qui est sorti, Nadav Avihu qui sont sortis, toute la communauté qui sort à la rencontre de Yitro. Donc voilà, cette visite de Yitro qui est importante, pourquoi ? Parce que Yitro va apporter de nouveaux conseils à son gendre, à Moshe. Il va lui suggérer, par exemple, de déléguer une partie de son rôle, par exemple son rôle de juge. Donc, il va mettre en place toute une mise en place judiciaire. Il va créer aussi d'autres leaders dans le peuple. Tout cela, en fait, c'était des conseils que Yitro donnait à son gendre pour que Moshe ne soit plus surchargé. Et ensuite, on voit ensuite, vous connaissez la suite, tout simplement, c'est que le pacte avec Akadosh Baruch Hu, l'alliance avec Hachem par le biais des 10 commandements, où le peuple d'Israël arrive au Mont Sinaï, et Akadosh Baruch Hu propose cette alliance à Israël par le biais de Moshe qui transmet une partie des paroles d'Akadosh Baruch Hu, et que les Bnei Israël donc, vont accepter et obéir à la loi divine. Et Dieu s'est révélé, c'est la révélation divine par les 10 commandements au peuple. C'est vraiment, ça marque l'instant de l'alliance entre Hachem et Israël. Et ensuite, la paracha terminera avec des commandements et aussi des versets qui vont nous parler de la mise en garde aussi de ne pas se vouer à d'autres adorations d'autres dieux de l'idolâtrie.
Alors, M. Rabbin Yaakov Varsuchat, on va commencer à parler de la paracha. Et dès le début de la paracha, il y a deux mots qui sont apparemment liés, vous nous le direz, entre le mot « Vaishma Yitro ».
Ah, alors, très bonne question.
Qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro, que le peuple n'aurait pas entendu ou écouté ?
Exactement. Alors, tout simplement, la question que vous posez, mon cher Jean, a été déjà relevée, vous imaginez bien, par le commentateur principal de la Torah, Rashi, qui immédiatement pose cette question. Mais qu'est-ce qu'Yitro a-t-il entendu ? Alors, Rashi nous dit « Mâche-moi, Shamar, Veba ». Quelle a été cette chose que Yitro a entendue ? Et immédiatement après, Yitro a fait un 180 degrés, puisque Yitro, qui était quand même prêtre de Midian, s'est tout de suite à chercher à se convertir après avoir entendu cela. Alors Yitro, il a entendu quoi, comme va nous dire Rashi ? Il a entendu les miracles qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem a fait au Béni Israël, bien évidemment l'ouverture de la mer des gens, mais pas seulement, aussi la guerre avec Amalek, et puis le puits, puis tous les miracles qui ont eu lieu, mais surtout le miracle de la Kriyat Yamsouf, de l'ouverture de la mer rouge, qui était vraiment un miracle qui a donné à Yitro cette prise de conscience. Alors, si vous remarquez bien ici, on parle du mot Vaishma. Vaishma, c'est donc il a écouté, c'est cette écoute. Très bonne question, j'y arrive. C'est qu'il y a vraiment une distinction à faire entre le fait d'écouter et le fait d'entendre. Parce que le Midrash et plusieurs autres commentateurs nous disent que tout le monde avait entendu. Tout le monde, d'un bout à l'autre du monde, tout le monde savait que la mer Rouge a été ouverte pour le peuple d'Israël. Et pourtant, nous remarquons qu'un des seuls qui a véritablement changé, c'était Yitro. Alors, on dit toujours que entendre, c'est j'entends quelque chose, j'entends une information, mais il n'y a pas véritablement de prise de conscience et de changement qui est lié. Alors que lorsque j'écoute, et c'est l'écoute de Yitro ici, a été une écoute avec une prise de conscience et qui est liée avec un changement. Comme on le dit tous les jours dans le Aleinu Lishabeach, d'ailleurs c'est un verset qui se trouve dans le livre de Devarim, où on dit tous les jours « Veyadat ha'yom vehashevota elevavecha » donc tu sauras aujourd'hui et tu le ramèneras à ton cœur. Alors ce verset qui est expliqué par exemple par le Rav Eliyahu Lopian ou par d'autres rabbanim, c'est se savoir, le fait de savoir quelque chose, et ensuite la deuxième étape, c'est de le ramener à son cœur. Cette étape, la deuxième étape, est très difficile parce qu'elle demande un véritable changement. Et c'est ce que Yitro a fait, et c'est pour ça que Yitro a été aussi honoré d'avoir une paracha qui porte aussi son nom.
Alors, on parle de Yitro comme personnage imminent de la Torah, et d'ailleurs de cette paracha. C'est quoi son parcours à lui? Pourquoi il a autant de qualité, Yitro?
Alors, en quelque sorte, quel était son parcours à Yitro?
Alors, on sait qu'il a été conseiller de Pharaon, voilà. Et qu'il est parti à Midian parce qu'il était en désaccord avec Paro lors de la décision de tuer les premiers-nés juifs. Il n'était pas d'accord avec lui, et donc il est parti à Midian. Et
là, ouais. Son parcours, en vérité, à Yitro, on peut le séquencer en cinq parties, ah. En cinq points vraiment qui vont définir l'historique du personnage de Yitro. Premièrement, Yitro, voilà, était prêtre de Midian. Alors imaginez-vous qu'être prêtre, c'est-à-dire était le chef de la tribu de Midian, cette région qui est située à l'est de l'ancienne Égypte. Et donc avant de rencontrer Moshe, il vivait dans cette région, et il faut le dire, c'est une région où Yitro, il avait une très grande influence, parce qu'il était considéré en tant que leader spirituel, mais pas que, mais aussi politique. Ensuite,
est-ce que Midian, c'est un endroit où Dieu était un peu inconnu?
Alors, Dieu était... Non, Dieu... Alors, bien évidemment que...
Il a dit qu'il était droite, c'est ce que je veux dire.
Il était prêtre, donc il y a eu, si vous voulez, une certaine religion ou alors une croyance qui s'est installée là-bas, mais on n'est pas encore dans la croyance parce qu'il n'a pas encore rencontré Moïse. Il n'a pas Moshe, voilà. Donc on arrive juste après cet épisode à la rencontre avec Moshe. Et donc, comme vous le savez, Moshe qui a fui très rapidement l'Égypte, parce que il a été dévoilé donc après avoir tué l'Égyptien, et donc Moshe va trouver refuge chez Yitro, que Yitro voilà va le recevoir très chaleureusement, et même à tel point que Yitro, comme vous le savez, va donner donc comme épouse à Moïse sa fille
Tsipora,
et donc il deviendra immédiatement après le berger d'Yitro. Ensuite, on voit qu'après il y a eu la révélation d'Hachem à Moshe. Moshe est parti en Égypte, et vous connaissez la suite. Et puis au retour ensuite dans le désert, donc début de notre paracha, où Yitro va devenir en quelque sorte le conseiller de Moshé. Et ensuite, Moshé va même le pousser à la conversion. Donc, il était déjà bien, bien clair avec cette idée-là, Yitro. Et donc, il y a eu la conversion de Yitro. Et ensuite, Yitro, le fameux retour à Midian. Donc, après avoir conseillé Moshé, Yitro, il va retourner chez lui à Midian, après avoir vraiment contribué à la structuration du leadership d'Ebné Israël, qui reste vraiment importante, cette restructuration.
Alors, je me suis ramené à Kov Varsushak, quand on dit la paracha, et qu'on parle de Yitro, tout de suite, pratiquement à chaque intervention, on dit Chotem Moshé, le beau-père de Moshé. C'est important, cette précision, à chaque fois.
Alors, effectivement, comme Rachid au début de la paracha, donc pose cette question, puisqu'on voit que dans le début de la paracha, on est marqué que Yitro, qui était le prince de Midian et encore beau-père de Moshé, y avait-il réellement besoin d'avoir encore cette redondance dans les termes, de chaque fois rappeler Kohen Midian, Chotel Moshé, Chotel beau-père de Moshé. En vérité, Rachid nous explique que lorsque Moshé est devenu quand même une très grande personnalité, le sauveur, le libérateur, etc. Et donc, c'était aussi un peu un moyen honorifique, un titre un peu honorifique qu'on voulait donner à Yitro à chaque fois qu'il se présentait. Il s'est présenté en disant, voilà, je suis quand même le beau-père de Moshé, ce sauveur. Donc, c'est Rachid nous explique ça. Et puis, c'est aussi Moshé qui utilisait aussi ce titre avant qu'il devienne une personnalité, en disant que quand il est arrivé dans la zone géographique donc de Midian, il disait donc je suis donc le gendre de Yitro.
Alors la question elle est dans ce cas-là, si Yitro n'était pas le beau-père de Moshé, est-ce qu'il y aurait eu la même chose? Est-ce que ce serait passé de la même façon?
Alors je ne sais pas si on aurait pu répéter plusieurs fois Roten Moshé, le beau-père de Moshé, mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, avant cet épisode, avant que Moshé devienne une personnalité, il faut se rappeler que Yitro était aussi considéré comme une grande personnalité. Mais je ne pense pas qu'on aurait pas dit à chaque fois Roten Moshé
il n'était pas le beau.
S'il n'était pas, voilà.
Alors, on va passer aux 10 commandements. Et alors, on va un peu passer le début, et on dit que Dieu, quand il est allé présenter les 10 commandements au peuple d'Israël, il est venu avec des tonnerres, des éclairs, enfin, un temps tambour exceptionnel. Est-ce qu'il n'aurait pas pu descendre plus simplement?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, parce qu'en réalité, Hachem savait pertinemment que le peuple d'Israël accepterait la Torah, mais quand même, il ne faut pas oublier que là, nous parlons du dévoilement, du grand dévoilement. Et l'intensité donc, de tous ces phénomènes naturels ont en vérité plusieurs raisons. Et en vérité, la première raison qu'on pourrait donc développer, c'est la raison de renforcer. Dieu avait quand même cette volonté de renforcer la prise de conscience de la sainteté qui était présente à ce moment-là.
Il les a réveillés, en fait.
Comment ?
Il les a réveillés. Spirituellement.
Il les a réveillés, mais c'est surtout, il leur a fait prendre conscience de là où on se trouve devant Dieu. D'ailleurs, dans le verset, c'est écrit dans le texte qu'ils ont dû se préparer 3 jours avant, se séparer pour se sanctifier, parce que c'était un moment vraiment important. Et donc le tonnerre et les éclairs ont montré en vérité que la Torah était aussi une source divine qui est liée avec la nature et surtout d'une autorité supérieure. Cela a permis tout simplement aussi de créer une atmosphère de crainte, mon cher Jean, de crainte, d'instaurer cette IRA et ce respect pour la rencontre, la fameuse rencontre avec Hachem. Et surtout, ne pas oublier qu'il faut que cet événement reste pour toutes les générations. Donc il y a une volonté aussi de rendre l'événement mémorable. C'est ce spectacle grandiose va être gravé, c'est un instant qui sera gravé dans la mémoire collective d'Israël dans toutes les générations. Un événement unique et marquant. Donc je pense que toute cette, on pourrait dire, cette mise en scène du tonnerre et de l'éclair va servir à donc à ancrer, comme un ancrage dans les générations et dans la mémoire du peuple d'Israël, comme moment très important pour le peuple d'Israël.
Alors, quand on lit la Torah, on explique effectivement que les 10 commandements ont été écrits sur deux tables de la loi. Ça aurait-il pas plus simple d'avoir une table et de marquer les 10 commandements l'un après l'autre ?
Bah, effectivement. Alors, pour cette question, c'est vrai, vous avez raison, on aurait pu les écrire périlliniste et puis sur la même table. En vérité, Dieu a voulu nous faire passer un message important. Dans cette façon donc de présenter les deux tables de la loi, tout simplement nous apprendre deux dimensions, puisqu'on sait très bien que les deux tables, dans la première table on parle de la relation verticale, ce qu'on appelle autrement dit Ben Adam Lamakom, la dimension d'une liaison, d'un lien entre l'homme et Hachem. Et ensuite, dans la deuxième table, on va parler véritablement du lien plus horizontal, d'homme à homme, du lien, ce qu'on appelle Ben Adam la Chavero, entre un homme et son prochain. Et c'est ce qu'on voit tout simplement, puisque dans les premières Dibérot, donc on voit que c'est la croyance en Dieu, le fait de ne pas avoir un autre Dieu, le fait de ne pas faire une image taillée, l'otaselecha fessel, etc. Et de ne pas mentionner le nom de Dieu en vain. Donc on voit réellement qu'il y a une relation verticale. Alors que pour la deuxième partie, on voit tout simplement que c'est un homme entre un homme et son prochain. Bien évidemment, le fait de ne pas tuer, ou le respect des parents, de ne pas commettre adultère, etc. De ne pas voler, de ne pas parler de faux témoignages contre son prochain. Tous ces commandements là sont des commandements donc
en fait c'est pour séparer les deux, c'est ça,
voilà, oui. Alors, c'est pour nous apprendre aussi ces deux dimensions importantes.
On a donc 10 commandements et souvent les rabbanim ont l'habitude de séquencer, on va dire, en trois petites parties les 10 commandements. C'est quoi ce séquençage?
C'est comme je vous l'ai dit, donc il y a les deux, donc les deux dimensions de Ben Adam Lamakom, la dimension entre l'homme et l'Éternel, et Ben Adam Lachavero, la dimension entre l'homme et son prochain. Mais il y a aussi une troisième dimension qui est extrêmement importante, c'est la dimension de Ben Adam Leatzmo, c'est-à-dire l'homme avec lui-même, donc cette relation avec soi-même. Et cette relation avec soi-même, on la voit surtout dans le dernier commandement où on nous parle de l'attitude intérieure, du respect de la propriété d'autrui. On nous dit que tu ne désireras pas, par exemple, la femme de ton prochain ni de ses biens. Donc c'est vraiment cette convoitise, c'est cette concupiscence, ce désir qui appartient de quelque chose qui appartient aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une bataille avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, de bien réfléchir à cette notion de désir et de convoitise, qui est vraiment un point à régler à l'intérieur de soi-même et qu'avec soi-même. Et ces trois sections-là qui illustrent aussi une hiérarchie qui commence par la relation avec Dieu, puis on pourrait dire ça l'ordre social et moral envers les autres. Et enfin, bien évidemment, comme je viens de le dire, la gestion des désirs personnels et cette intégrité intérieure.
Alors, M. Yaakov Arshat, toujours en lisant la paracha, c'est notre base de départ, quand on lit, on a l'impression finalement que le monde a commencé à la sortie d'Égypte. Est-ce que on a l'impression qu'avant la sortie d'Égypte, il ne s'est rien passé? C'est ça le cas ou le cadre?
Alors, pas véritablement, bien évidemment qu'avant la sortie d'Égypte, il ne s'est rien passé, mais la sortie d'Égypte, on va dire, ça a été le moment où les Bnei Israël vont devenir un peuple libre. Mais, vous savez, dans le premier verset, à la fin du premier verset, on nous dit que donc Yitro a entendu dans tout ce que Dieu avait fait à Moshé, à Israël, à son peuple, etc., et que Hachem avait fait sortir Israël d'Égypte. Et alors, on peut se poser une question, comme le dit Rashi. Il y a eu d'autres miracles. Pourquoi on choisit que de mentionner ce miracle de la sortie d'Égypte ? Alors, Rashi nous dit tout simplement parce que Zo Gedola Al Kulam. Parce que cet événement historique a été vraiment un événement. C'est l'événement le plus important, le plus grandiose, le plus spectaculaire que les Israël ont pu vivre. Et donc, bien évidemment qu'il y a lieu de marquer le coup sur cet événement. D'ailleurs, c'est un événement qu'on mentionne régulièrement, pratiquement dans toute notre filote, partout, dans toutes les étapes, dans le calendrier hébraïque, dans les fêtes, etc. C'est un événement qui a été vraiment l'événement qui va... ça a été le début de la route vers la révélation divine. Et puis je voudrais aussi rappeler un Ramban que nous avons lu donc à la fin de la paracha de Bo, où le Ramban nous dit que cet événement, surtout même tous les miracles dévoilés, sont la base et le fondement de toute la Torah. Alors il explique pourquoi, parce que c'est grâce à ces événements, ces miracles dévoilés, qu'un homme arrive à avoir foi et croire que tout ce que nous vivons dans notre vie, qui sont des miracles cachés, grâce au fait que je vais puiser cette force en regardant bien évidemment un miracle comme l'ouverture de la mer Rouge, alors à ce moment-là je vais puiser cette force de me dire « Ah mais tout le reste de ma vie en vérité est un miracle et qui est le fruit aussi de la providence divine ». Donc c'est pour ça que véritablement cet événement, ce miracle a été mis en valeur beaucoup plus que les autres parce que c'était le grand miracle que les Bnei Israël ont vécu.
Il y a un rabbin qui racontait une fois que le fait d'avoir des petits-enfants qui naissent avec tout ce qu'il faut, c'est déjà un miracle. Dès que les gens naissent avec tout ce qu'on peut connaître comme information concernant le corps humain. À la fin de cette révélation, la Torah nous annonce que Moshé rassure le peuple. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Pourquoi le peuple a eu peur ?
On a parlé tout à l'heure des tonnerres, des éclairs, de cette révélation grandiose.
Oui, mais après, c'est passé après.
Oui, donc dès que les Bnei Israël ont vu cette révélation grandiose, on voit qu'à la fin de la paracha, le peuple, donc Bechol Ha'am Ro'im Et HaKolot, tout le peuple ont vu les voix, les tonnerres, les éclairs, etc., le chauffard, la fumée, et donc le peuple. Je veux dire, c'est un moment où ils ont eu très peur, à tel point qu'ils ont dit à Moïse, ils ont dit Moshe, daber ata imanu venishma, ali daber imanu elokim pen namut. Le peuple dit à Moshe, parle-nous toi directement et nous on t'entendra directement. Mais je t'en prie que Dieu ne nous parle pas. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de mourir. Ils se sont dit, regardez comment Hachem s'est dévoilé ouvertement. Donc ils ont imaginé que Dieu se dévoile tout le temps comme ça. Alors en vérité que Moshé les a rassurés, il leur a dit, bon écoutez, soyez sans crainte, car c'est pour en vérité vous élever qu'Hachem est venu. Et c'est surtout cette manière de que vous avez pu voir, cet événement un peu grandiose que vous avez pu voir, c'est pour que vous ayez cette crainte extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, cette crainte positive d'Akadosh Baruch Hu, et c'est surtout aussi ce qui mettra un frein peut-être aux autres générations plus tard, de se dire que bon, on peut pas, on connaît maintenant la grandeur et la puissance du Créateur, alors on va pas
transgresser
ni commettre des erreurs quelconques, puisqu'on connaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est de cette façon-là Moshé a rassuré le peuple qui était un peu angoissé au vu de tout ce qu'ils ont pu voir.
Un mot sur la fin de la paracha avec un thème ou deux qui vont journée, la fin de cette paracha.
En vérité, à la fin de la paracha, donc les derniers psukim, on voit clairement que la Torah se termine par des instructions concernant l'adoration de Dieu en général, l'adoration des dieux, les dieux interdits, l'interdiction de faire des idoles ou des statues pour l'adoration, et aussi préciser, en précisant bien évidemment que les autels doivent être simples. Donc, doivent pas être ornés par exemple de façon excessive. Et la fin de la paracha aussi, cher Jean, rappelle l'importance de l'humilité et de la simplicité dans le culte, dans la pratique du culte.
Important.
Voilà, en opposant l'idolâtrie et l'adoration, comme on peut imaginer. Donc cela marque la transition entre la révélation divine des 10 commandements et les instructions détaillées sur la façon de servir à Kadosh Baruch Hu en établissant des principes clairs pour les pratiques religieuses à venir.
Merci monsieur le rabbin Yaakov Bar Shushat d'avoir accepté mon invitation tardive.
Voilà, avec plaisir.
Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine à 14h. Merci à Thomas pour la technique.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, you did not prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh.